Vraiment, il est riche. Alors, j'aimerais vous apporter un message dans ce contexte de Noël. J'aimerais que l'on mette à l'écran Luc chapitre 2, versets 8 à 14. Alors, en pensant aux enfants qui sont venus tout à l'heure sur scène, c'est étonnant comme on peut voir des enfants qui sont déjà libres sur scène et parents. Si vous remarquez que vos enfants sont libres sur une estrade, s'il vous plaît, inscrivez-les dans un cours de théâtre ou quelque chose comme cela, mais faites en sorte qu'ils continuent, parce que très souvent, il y a là des talents. Alors, Luc chapitre 2, versets 8 à 14, je vais lire en même temps là. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. » J'ai pas eu le temps de lire. Ah d'accord. Alors, 8 à 14. « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. » Alors, sans m'étendre sur ce verset, on fête Noël, c'est-à-dire qu'on fête la naissance de Jésus un 25 décembre, 24, 25, mais à vrai dire, cette idée que Jésus serait né à cette époque-là est une idée qui a été répandue par quelqu'un qui s'appelait Sextus Africanus, Julius Africanus, et c'est en l'an 221 que cette idée-là est venue. Mais rien que d'après ce verset, on sait qu'en hiver, en Israël, il n'y a pas de troupeaux qui dorment la nuit dehors, il n'y a pas de bergers. Il n'y a que les bergers gardent les troupeaux la nuit dehors au printemps ou jusqu'en automne, mais certainement pas en hiver. Alors, quand on étudie les Écritures, et ce serait beaucoup trop lourd maintenant de passer toutes les dates en revue, mais à vrai dire, nous sommes probablement en train de célébrer le moment de la conception. Parce que quand on reprend les différentes Écritures et dates que nous avons grâce au calendrier juif, eh bien, Jésus serait plutôt né vers septembre, à l'époque de Rosh Hashanah. À l'époque de Rosh Hashanah qui est très vite suivie par ces deux autres fêtes, et notamment par la fête des tabernacles. Il nous est dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 14, que la parole est venue et elle a habité parmi nous. Et à vrai dire, habiter, c'est le verbe que l'on n'a pas en français, mais que l'on pourrait dire, elle a tabernaclé. Et pour vous qui étudiez les fêtes juives, eh bien vous entendez cette fête-là des tabernacles. Dans Jean chapitre 1, qui nous est dit que la parole est venue et elle a habité parmi nous. Cela peut nous amener à penser à un des noms de Jésus par lesquels il se révèle, c'est Emmanuel. Emmanuel, Immanuel, qui veut dire Dieu avec nous. On reprend dans Luc chapitre 2. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux, et voici un ange du Seigneur leur apparut, c'est la scénette que l'on a vue tout à l'heure, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Bah oui, imaginez que tout d'un coup le ciel s'éblouit, vous ne demandez rien à personne, vous êtes en train probablement de parler avec un autre berger, et tout d'un coup il y a une intervention surnaturelle, la gloire de Dieu qui resplendit. Et là, la Bible nous dit, ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point. Il dit, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alors qu'il sera pour tout le peuple, eh bien, rappelons-nous que c'était des bergers juifs qui étaient en Israël, ils n'étaient pas à Rome, Et ils ont une apparition angélique. Et la Bible nous dit que cette nouvelle sera une bonne nouvelle pour tout le peuple juif. Mais quand on lit les Écritures, on se rend compte que la rédemption qui est manifestée à travers Israël, le peuple, eh bien, c'est une rédemption qui va jusque dans toutes les nations, parce qu'Israël est une bénédiction à toutes les nations. Et l'annonce continue en disant, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, c'est-à-dire le Oint, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu. Et quand je lis ce passage-là, je me rends compte que une fois de plus, comme on l'a vu bien avant dans les Écritures qui ont précédé ce verset, que la louange est une louange du cœur et c'est une louange qui est éclatante. On ne parle pas d'un murmure de chants, on parle de chants qui débordent du cœur. Imaginez l'ambiance cette nuit-là en Israël. Et il est dit disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Vous savez que au-delà du ciel, au-delà de notre univers, il y a des lieux qui sont encore plus hauts. Et c'est là qu'est la céleste. C'est là qu'est le trône de Dieu. Rappelez que il est sur terre comme elle est au ciel. Le ciel ne s'arrête pas aux nuages. Et il est dit, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Quand on lit ce passage-là, eh bien, on entend et paix sur terre. Et on peut être un petit peu troublé parce qu'on se dit, eh bien, si vraiment Jésus est venu amener la paix, eh bien, il a dû rater quelque chose, parce qu'il suffit d'allumer son poste pour voir qu'il y a la guerre, il suffit de tendre l'oreille pour entendre qu'il y a dans les familles, qu'il y a parfois même dans les couples, qu'il y a entre voisins la guerre, qu'il y a des mésententes. Alors, on peut se dire que Jésus n'était pas en train de parler la paix parmi les hommes dans le sens humain, mais il était en train de parler d'une paix précise. Et il nous est dit, dans Ésaïe, au chapitre 9, « Car un enfant nous est né », il faut réaliser que ça s'était écrit 700 ans avant la naissance de Jésus. Il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté est sur ses épaules, on proclame son nom merveilleux, conseiller Dieu fort, père à jamais, prince de la paix. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin sur le trône de David et pour sa royauté, qu'il établira et affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. L'ardeur du Seigneur de l'univers fera cela. » Alors dans ce verset, on pourrait s'arrêter sur chaque mot, mais ce que j'aimerais dire, c'est que déjà il nous est dit qu'un jour viendra la paix par ce roi des Juifs, qui sera étendu sur toute la terre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y aura qu'un seul gouvernement, la Bible le dit ici dans le livre d'Ésaïe, et la terre entière sera sous son gouvernement. Il nous est dit que c'est aussi le prince de paix, c'est-à-dire qu'à un moment dans l'histoire, il n'y aura plus ni socialisme, ni capitalisme, ni communisme, ni dictature, ni rien du tout. Il y aura un gouvernement de droit et de justice que le Messie portera. Donc on sait déjà, on connaît dans le futur ce qui va se passer. Et la Bible nous dit qu'il règnera sur son trône à Jérusalem. Mais il nous est dit que celui qui vient est le prince de la paix. Et quand Jésus a parlé de cette paix qui existera, bien sûr qu'il y a, vous savez, dans une prophétie, il y a le premier degré de la prophétie et il y a plein d'autres degrés. C'est un petit peu comme un fleuve. Vous avez un courant et puis ensuite vous avez un autre courant et vous avez un autre courant. Mais là, hormis le fait que oui, il annonce une paix qui va régner avec le Messie, une paix qui sera partout sur la terre, mais il y a encore une autre paix dont il est question. Parce que Jésus, quand il est dit qu'il est appelé le prince de la paix, on sait que ça a à voir avec sa naissance, mais tout à l'heure quand je disais l'idée de fêter la naissance de Jésus le 25 Noël est venue en 221. Jusqu'au 19e siècle, même les protestants ne fêtaient pas Noël. Mais il faut savoir que les premiers chrétiens ne fêtaient pas la naissance de Christ. On ne le trouve pas dans la Bible. Ils ne fêtaient pas la naissance de Christ. En revanche, il a dit quelque chose qui est important. Il nous a demandé de nous rappeler de sa mort. Nulle part vous trouvez dans les Écritures que Jésus nous a demandé de nous rappeler de sa naissance. Alors on le fait parce que maintenant c'est passé dans la tradition et en même temps on veut remercier l'Éternel Dieu. Mais les Écritures nous demandent de nous rappeler de la mort de Jésus. Pourquoi ? Qu'est-ce que sa mort a à voir avec la paix ? Mais il nous est dit, je vous le lis simplement, écoutez, en Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 14, les Écritures nous disent à nous non-juifs, « Souvenez-vous donc de ceci, vous qui autrefois étiez les non-juifs dans la chair, » et je continue au verset 12, « Vous étiez en ce temps-là, sans Christ, c'est-à-dire sans le oint, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. » Nous étions étrangers parce que ces promesses-là ne sont pas pour nous. Il est dit « Nous étions sans espérance et sans Dieu » dans ce monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous autrefois qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du sacrifice du Christ. C'est lui qui est notre paix. Et nous avons la joie d'avoir parmi nous des amis juifs qui ont accepté cette invitation de nous rendre visite et avec lesquels nous collaborons une fois par an pour montrer notre soutien à Israël. Et on l'a fait pendant 3 ans et c'est une joie de faire cette journée particulière où les chrétiens disent « Oui, nous soutenons Israël et nous disons merci ». Et surtout la première année, on a entendu des amis juifs qui nous disaient « Mais pourquoi ? Pourquoi vous le faites ?» Ben notamment à cause de ce verset. Parce que nous étions sans Dieu. Vous savez, les juifs sont élevés avec la conscience de Dieu. Les enfants grandissent dans des familles où ils font Shabbat. On dit « Pourquoi vous faites Shabbat ?» Ben parce que dans les Écritures, il est dit d'honorer ce jour-là et de le sanctifier et de penser à l'Éternel, de se remémorer qu'il existe un Créateur, un Dieu de l'univers qui est au-dessus de tous les hommes et qui porte un regard qui est bienveillant. Et puis il y a toutes ces fêtes juives-là qui arrivent et qui rythment toutes les années et les enfants sont élevés dans cette atmosphère de temps de pause, de temps de rendez-vous avec Dieu. Et ils développent cette conscience que oui, il existe un Dieu. Et ils apprennent que ce Dieu est fidèle. Et ils apprennent que ce Dieu a fait des promesses envers eux. Et ils portent cette conscience dans leur chair. Mais pour ceux qui ne sont pas juifs, nous grandissons sans la conscience de Dieu. Et c'est terrible. C'est terrible de ne pas avoir conscience de quelqu'un, surtout quand ce quelqu'un nous aime. Même l'éternel Dieu est le Dieu infini, le créateur de l'univers, oui, mais il veut être proche. C'est exactement comme, par exemple, un homme a la conscience de sa femme, même si elle n'est pas à côté de lui toute la journée. Quand il prend des décisions, si par exemple il doit rentrer un petit peu plus tard le soir parce qu'il est resté au travail une heure, il a conscience de sa femme. Il va lui téléphoner et lui dire « j'arrive un peu plus tard ». Bon, normalement. Par exemple, si un enfant conduit la voiture de son père et il a conscience de la présence de son père n'est peut-être pas dans la voiture avec lui, mais croyez-moi que s'il fait un accro dans la carrosserie, il va avoir la conscience. Ou peut-être s'il roule un petit peu trop vite et il n'a pas fait d'accident, tout va bien, mais il a la conscience. Et si vous voulez mener sa vie sans la conscience de Dieu, sans savoir qu'il existe un Dieu, un créateur du ciel et de la terre, c'est dur. Beaucoup de gens essaient de vivre leur vie sans Dieu. Beaucoup de gens rient de la foi de ceux qui croient qu'il existe un Dieu qui est bon. Mais c'est dur. C'est dur de dire, mais pour moi, quelquefois, vous savez, les gens nous posent des questions sur notre foi. Ils disent, mais pourquoi tu as la foi? Est-ce que tu as besoin de cela? Non, mais je ne suis qu'une créature. Bien sûr que j'ai besoin de reconnaître mon Créateur, surtout s'il m'aime, et que je n'ai pas à avoir peur de lui. Et quand parfois on partage notre foi, quand on nous pose des questions ou autres, et la réponse des gens, très souvent, c'est « Ah, mais pour moi, Dieu est loin. » Et tu as raison. Tu as raison. Parce qu'il nous dit « C'est le sang qui nous rapproche. » Et quand l'annonce a été faite et que les anges ont dit « paix, paix, paix », Colossiens chapitre 1, je vais juste le lire, verset 19 nous dit « car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, vous dont les œuvres étaient mauvaises, manifestaient l'hostilité profonde. Voilà que maintenant Dieu vous a réconciliés. » Voyez-vous, la réconciliation que nous avons avec Dieu, il est dit, elle est grâce au corps de son Fils par sa mort. Quand il est venu, Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est-à-dire qu'il n'a pas ôté les péchés, mais il a ôté la puissance du péché qui constituait une séparation entre Dieu et nous. Et le problème du péché entre Dieu et nous a été réglé. Si bien que nous pouvons nous approcher de Dieu, ce n'est pas dire qu'il approuve tout ce que l'on fait, non. Mais en tout cas, même notre péché ne peut pas nous empêcher de nous approcher du Dieu éternel et du Dieu trois fois saint. Et c'est de cette paix-là, la paix entre Dieu et les hommes a été faite. Mais les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Et pourtant, c'est si simple. Quand il est dit que c'était une bonne nouvelle, alors oui, c'est une immense nouvelle. Et surtout pour ceux qui étaient loin, 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 sans aucune conscience de Dieu. Alors vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce que les chrétiens fêtent Noël? Vous savez, on devrait fêter Noël quand nos amis juifs fêtent leur fête. Rosh Hashanah, mais également Yom Kippour. On a des raisons de dire merci à Dieu. Et puis les tabernacles. Emmanuel, Dieu est avec nous. Vous comprenez pourquoi il ne peut pas être contre nous? Parce que le sang nous a rapprochés. Dieu a pris cette initiative en envoyant son Fils. Maintenant, la question est, nous, qu'allons-nous faire? Est-ce que nous disons, ben non, moi je n'ai pas besoin de toi. Non, 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 je veux faire ma vie sans toi, je n'ai pas besoin de toi. Dieu ne peut rien faire de plus. Mais en tout cas, pour nos amis juifs, merci. Et l'Église doit dire merci. Parce que maintenant, nous avons cette conscience de Dieu. C'est-à-dire que quand il arrive quelque chose de difficile dans la vie, et vous savez, la terre n'est plus comme Dieu l'avait créée dès le départ. Le jardin d'Éden était supposé s'étendre et s'étendre et s'étendre sur la terre. Et tout devait être que ta volonté soit faite comme au ciel et sur terre. Les plantes, d'où croyez-vous qu'elles viennent? Mais l'être humain a choisi de faire sa vie sans Dieu. Et quand l'être humain a choisi de faire sa vie sans Dieu, toute cette planète qui avait été créée pour lui a été complètement déréglée. Et aujourd'hui, toutes ces atrocités que nous voyons, c'est le résultat de la vie sans Dieu. Mais dans notre vie personnelle, l'harmonie peut revenir. En attendant ce royaume physique du Messie sur terre, nous pouvons voir ce royaume établi dans nos cœurs. Et ça, c'est une nouvelle qui est immense. Oui, à nouveau, nous pouvons retrouver la conscience de Dieu. Nous qui étions loin de Dieu, quand quelque chose se passe dans notre vie et que c'est difficile, eh bien, même si on a des gens autour de nous qui nous aiment, eh bien, ils ne nous connaissent pas comme Dieu le Créateur nous connaît. Et à ce moment-là, il est bon d'avoir la conscience de Dieu et de dire, je ne suis pas seul. Il peut et il veut m'aider. Vous savez, même quelquefois, il y a une bonne nouvelle, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Quelquefois, il y a une bonne nouvelle. Et quand il arrive quelque chose de bon à quelqu'un, eh bien, on a envie de se réjouir avec lui, et on est content. Mais franchement, on ne peut pas connaître la joie que l'autre expérimente, les profondeurs de son être, on ne peut pas. Mais Dieu, oui. Et on peut partager cette joie quand on a la conscience de Dieu, parce que lui la comprend. Alors, pendant toutes ces fêtes de Noël, oui, il va y avoir des plats délicieux et oui, il va y avoir tant de belles choses. Va y avoir des échanges de cadeaux qui parlent du cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Mais prenez le temps de réfléchir à votre relation avec Dieu. Prenez le temps d'accepter. Vous savez, quand on prie, ce n'est pas des paroles qu'on répète comme cela, c'est du cœur à cœur. Il y en a qui parlent plus vite que d'autres, bon, ça c'est une question de... Hein. Mais quelle que soit la vitesse de vos paroles, quand vous parlez à Dieu, assurez-vous que c'est du cœur à cœur avec lui. Acceptez qu'il soit proche de vous, parce qu'il n'y a rien de plus beau. Alors, tout à l'heure, quand si vous avez le temps de rester ou quoi. Si vous avez d'autres questions à poser, s'il vous plaît, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas. Cherchez à connaître Dieu. Parce qu'il est bon. Les Écritures nous disent continuellement, il est bon et sa miséricorde durera jamais. Il est amour. Joyeux anniversaire. Vous savez, arriver, Monsieur Roussel connaît le Seigneur depuis longtemps et arriver à un âge avancé, pouvoir continuer à dire, il est amour. Permettez-moi de prier pour vous. Père, nous voulons te remercier parce que nous sommes sous ton regard et ce regard est si bienveillant. Je prie, mon Dieu, pour chaque personne qui entend ce message et que chaque personne, mon Dieu, soit encouragée à s'approcher de toi. Que chaque personne puisse recevoir cette paix, ce prince de la paix. Mon Dieu, tu as dit que c'est une paix qui va au-delà de notre intelligence. C'est une paix qui est là quand tout est tumulte autour de nous. Et puis c'est une paix qui nous permet de savoir combien tu nous aimes. Seigneur, tu n'es que bon, il n'y a rien d'autre en toi que de la bonté. Et je prie, mon Dieu, afin que chacun ici puisse ou bien se rappeler que tu es bon, ou alors oser croire que tu veux manifester cette bonté envers chacun de nous. Seigneur, que cette paix indicible soit manifestée dans nos cœurs. Je prie au nom de Jésus. Amen. Alors, Jésus est venu afin que nous soyons bénis. Et c'est par cette bénédiction que nous vivons. Soyez dans l'expectative pour que de bonnes choses se passent dans votre vie au cours des jours, au cours des semaines, au cours des mois à venir. Et moi, je vous mets au défi. Si vous ne savez pas que Dieu est bon, demandez-lui de vous manifester cette bonté et je peux vous assurer qu'il le fera. Et un joyeux Noël à tous. On se retrouve...